nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, la troisième époque de Violence et Crépuscule, L'élu. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Musique originale de L'élu, Lionel Morzetti. Des affaires. Vous êtes une taupe venue ici pour détruire la société.
Non, madame.
Je suis contre les expulsions, j'ai dit Cudi. Je vous comprends. Vous avez peur de vous retrouver dans un endroit peu reluisant. Mais vous oubliez, c'est que notre société est une grande société et qu'elle ne laisse jamais les gens qui travaillent avec nous dans les difficultés. Vous serez le reloger à Paris, dans un immeuble normal. Nous avons tout ce qu'il nous faut. Allez, restez calme. Attendez nos ordres. Surtout, ne vous faites pas de soucis pour vous. Rose lui dit,
mais madame, mais c'est les autres, les locataires.
Judith dit, mais les autres, locataires, ils seront relogés eux aussi.
Oui, mais dans des zones.
On ne peut pas mettre tout le monde à Paris.
Ils sont vieux, sans défense. On doit les aider. On doit les laisser tranquilles.
Ne vous occupez pas d'eux. Cela ne vous regarde pas.
Bon, eh bien.
Je vais déchirer cette lettre et vous l'oublierez. Elle prend la lettre et la déchire. Elle lui dit, nous sommes d'accord. Rose lui dit, j'aime pas laisser les gens en difficulté. J'aurais promis de les aider. Judith lui dit, ça, c'est votre affaire. Il ne faut jamais promettre des choses qu'on ne peut tenir. Vous avez bien promis à notre société d'être une bonne employée. Vous avez des devoirs envers nous. Aussi, ne l'oubliez pas. Rose lui dit,
si vous ne me croyez plus digne,
je ne dis pas ça. Et votre père était un de nos petits actionnaires. Vous bien oubliez cette histoire. Vous pouvez aller. Rose sort du bureau.
Au revoir, madame.
Au revoir. Elle se dit qu'elle va réfléchir. Et si elle pense que son employeur est incompatible à ses idées, elle le quitte pour rester maître avec elle-même.
Je veux rester honnête avec moi, comme père.
Les gens de l'immeuble sont convoqués à la mairie. Pour l'expulsion. Ils n'y vont pas, seul Philippe y va. Philippe se trouve dans toutes les réunions de locataires. Il entend leurs protestations. Les locataires reçoivent des lettres leur disant que l'expulsion approche. Rouge continue à se battre avec eux et leur dit de ne pas se laisser faire. Philippe lui dit qu'elle ne devrait pas le faire, qu'elle allait perdre son emploi. Pour éviter des complications, on amène le jour de l'expulsion que des camions vides. Les gens sont décidés de rester chez eux. Il n'y a pas de bruit. La rue a été isolée. Rose est chez elle comme tout le monde. Elle se dit qu'elle subira comme les autres ce qui va se passer. Elle le fait par respect à la mémoire de son père.
On a sonné à la porte. Elle va voir. On ne sait jamais. Elle voit Philippe. Elle a toujours un petit faible pour Philippe. Malgré qu'il n'ait pas les mêmes idées qu'elle. Elle lui ouvre. Il lui demande, je peux rentrer? Oui, bien sûr. Il entre. Elle ferme la porte. Il lui dit, je suis venu vous dire, Rose, si je vous devais quitter l'appartement le plus vite possible. Prenez juste ce qu'il vous faut et allez vous réfugier dans un endroit sûr. Allez au café, celui qui est au carrefour, j'irai vous rejoindre. Elle lui dit, et vous, vous restez? Oui, je suis obligé de rester. J'ai une chose à faire. Je suis programmé pour la faire. Elle lui dit, je vous en prie, si vous risquez, moi aussi, je veux risquer ma vie. Il lui dit, je ne crains rien, j'ai une chose à faire, je dois la faire, je suis programmé pour ça, mais vous, vous devez partir. Elle lui dit, non Philippe, si j'ai une chose à faire, moi aussi j'ai un devoir à faire, je dois rester ici. Mais pourquoi? Elle lui dit, parlez-moi pour mon père. Mon père était le médecin des pauvres. Il était près des victimes et non des bourreaux. Philippe lui dit, votre père n'aurait pas voulu qu'il vous arrive à quelque chose. Elle lui dit, que voulez-vous qu'il m'arrive? Je refuse de partir, me prendre peut-être de force avec les autres. Et je partirai ou refuserai d'aller dans la zone. Philippe dit, on vous tuera, on ne peut pas faire autre chose, on ne peut pas faire autrement. Ça a été programmé. Elle lui dit, comment? Il lui dit, je suis vraiment navré, mais le programme commence. Et je ne peux pas faire autrement, non. Prise, il la fixe bien des yeux
et de ses yeux sortent un rayon bleu qui touche son front. Elle tombe à la renverse. Il va ouvrir la fenêtre. Elle est tombée à la renverse morte. Il va la prendre dans ses bras. La fenêtre. Il casse tout dans l'appartement. Il casse tout. Le bruit fait peur aux gens de l'immeuble qui se terrent chez eux. Il sort d'appartement. Monte à l'étage. Sonne à la porte de l'appartement de droite. Pas de réponse. Le coup de poing. Il faut ouvrir la porte. La porte s'est ouverte. Il entre. Voilà les locataires. Un homme, une femme, de 50 ans. Terrorisés, tous les deux au salon, enlacés, assis, dans un canapé. Il va vers eux. L'homme tremblant lui dit, « C'est vous, monsieur Philippe, vous avez entendu ce bruit ?» Philippe ne répond pas. Il regarde bien dans les yeux, un rayon laser touche le front de l'homme. Ah! Il mord dans les bras de sa femme. Elle regarde malgré elle Philippe, qui lui aussi lui lance son rayon. Elle tombe sur son mari. Philippe va ouvrir la fenêtre. Va jeter les deux corps par la fenêtre. Et il casse tout dans l'appartement. Il sort de l'appartement. Il va vers la porte d'à côté.
Bien sûr, on ne lui ouvre pas. L'homme fait comme pour l'autre. Défoncer la porte et entrer. Et
il fait son travail. Deux ans plus tard, l'immeuble est vidé de ses locataires. Les cadavres et même les mourants vont être menés dans une fosse commune remplie de chauves-vives. Il a fallu pour faire ce travail un robot au lieu de toute une troupe d'hommes. Rapidité, économie. Puis l'équipe de l'émulsion est venue de suite pour éviter les squats. Après la démolition, la construction, pour ne pas laisser le terrain vide. gens du quartier, ont vu, entendu. Elle a donné une bonne leçon, car ce sera leur tour. Ils sauront ce qu'il ne faut pas refuser, l'expulsion.
Deux jours plus tard, l'on sonne chez M. Henri Mercier, un homme de 40 ans, grand, blond, mince, élégant, costume gris. Il habite un petit appartement bourgeois dans le 14e. Il ouvre.
Monsieur, vous désirez?
Bonjour monsieur, je m'excuse de vous déranger, mais pouvez-vous me donner un peu de sel, l'épicier? Fermé à cette heure, et je suis le nouveau locataire qui vient d'aménager en face de chez vous.
Mais bien sûr, monsieur, je vais vous le chercher, et s'éloigne pour aller le lui chercher.
Les jours passent. Maurice est seul dans son bureau, se sent isolé et prisonnier. On vient le voir que pour lui faire signer des chèques. Personne ne lui parle de quoi que ce soit. C'est comme s'il était en quarantaine. Le soir, pendant le repas, il dit à sa femme et à son fils.
Tiens, j'ai l'impression que mes jours sont comptés. Personne ne me parle, on me rejette. Il se pourrait que peut-être un jour, il décide d'en finir avec moi, s'il croit que je peux les gêner.
Sa femme lui dit. Mais non, c'est impossible, ils ne feraient jamais ça. Tu es leur chef, il faut leur montrer que c'est toi qui commandes. Non, tu es trop mou, ils profitent de ta faiblesse. Et puis, ils n'oseraient pas, ils ont besoin de nous, de ton fils.
Peut-être, mais il faut nous mettre sous nos gardes. Faites attention, vous deux.
Gilbert lui dit, les gens qui t'entourent ne me plaisent pas du tout. Je ferais tout, moi, pour m'en débarrasser si j'étais à ta place.
Cette conversation a été enregistrée. Et Harold en a eu le compte rendu, comme tous les membres. Après l'avoir lu dans son bureau, il se dit
« Gilbert est contre nous. Ça ne se peut pas. S'il est contre nous, ce sera terrible. Ça voudra dire que le centre est contre nous. Nous n'avons plus aucune raison de suivre. Nous serons autodétruits, détruits de l'intérieur par celui qui est ce que nous sommes. Il faut empêcher cela, mais comment ?
Maurice, démoralisé, a demandé un rendez-vous au président de la République qui accepte de le recevoir à l'Élysée dans son bureau. Le soir, à 22h, pour pouvoir être tranquille. Ils sont tous deux assis, l'un en face de l'autre. Un bon feu de cheminée pétille. Le président de la République française, depuis presque 20 ans, n'a pas beaucoup vieilli. Peut-être un peu moins de cheveux, le visage plus osseux qui le rend allongé, les lunettes en métal. Il demande à Maurice, « Qu'avez-vous à me dire ?» Maurice lui dit, « Ça ne va pas du tout. Je ne dirige plus mon groupe et je me sens surveillé. Le personnel a complètement changé. Ce sont des gens qui sont tous faits avec le même gabarit. J'ai l'impression que l'on méprise, m'espionne même. Chez moi, c'est la même chose. Je me sens prisonnier.
Je sais, vous êtes un peu déprimé, broyé du noir, Maurice lui dit.
Parce que je suis plus maître de ce que je fais. Tout se fait sans moi. Je passe mon temps à signer des chèques et c'est tout.
Le président lui dit,
il arrive un moment où tout chef est prisonnier de ce qu'il est et de son œuvre. Moi aussi, je suis prisonnier de ce que je suis. La plupart des choses, ce n'est pas moi qui les ai décidées.
Bandit, plus il échappe à son chef,
Maurice lui dit, et si le groupe a pris une mauvaise direction,
il faut l'aider à aller dans la bonne.
Mais ce n'est pas facile. Car un seul homme ne peut pas empêcher tout un groupe de faire ce qu'il ne veut pas faire.
Maurice lui demande, il ne leur reste plus qu'à partir. S'ils font une politique contraire à nos idées.
Non, on doit toujours rester à son poste, car il y a toujours quelque chose à sauver.
Pour ce qui est de votre corps, je ne vois pas ce qui vous déplaît
dans ce qui a été fait. dans votre groupe. Ils mettent en pratique ce qui a été prévu.
Oui, bien sûr. Mais est-ce que ça a été prévu d'espionner le président et sa famille, de mettre même des espions chez lui?
Marc lui dit, non, mais tout homme public, hélas, a ses ennuis. Vous êtes un homme public.
Boris lui dit, oui, mais j'aimerais être un homme libre. Et peut-on peut-être être plus humain pour faire notre projet?
Marc lui dit, plus humain? Mais il y a tellement d'humains que ce que nous faisons, ça ne se voit pas. Ou si peu, quelques personnes en plus ou en moins, sur des milliards, est-ce que ça se voit?
Du point de vue humain, monsieur le président,
Marc lui dit,
vous n'êtes peut-être pas assez fort de caractère pour faire ce que l'on vous demande.
Et qu'est-ce qu'on me demande?
De nous aider pour faire une terre propre, où il faut lui faire bon vivre, de la nettoyer de tous ces parasites qui empêchent l'humanité d'aller de l'avant. Vous êtes un de nos piliers pour réaliser ça, comme Pontoise, Juntou, Dieppe, et après vous. Ce n'est pas fini, il y en aura un autre. Notre but, c'est de gagner la guerre contre la barbarie. C'est pour que le progrès, la science, règne sur l'humanité, pour vivre dans un monde parfait. C'est la recherche de l'absolu. Et pour y arriver, il nous faut des hommes forts, qui soient prêts à tout, même à sacrifier leur idéologie, leur famille, leur vie, quoi.
Boris lui dit, c'est pour cela qu'on me demande mon fils.
Marc lui dit, parce que votre fils a un rôle primordial pour l'avenir. L'humanité a besoin de lui.
Pourquoi?
Peut-être est-ce qu'il est parce qu'il est votre héritier.
Je ne sais même pas moi-même. Je me fais peut-être des idées.
On demande votre fils parce qu'il est votre fils, voilà tout.
Alors, continuez votre travail.
Boris lui dit, je ne sais pas, je vais réfléchir.
Vous ne pouvez pas arrêter, donner votre démission comme ça.
Puis, Boris se dit, j'ai fait un pacte avec le diable. Je vais laisser tomber tout ça.
Il décide de convoquer le conseil d'administration de toutes ces sociétés. Dans le conseil d'administration, il y a M. Dutour Henri, qui est PDG Pontoise Dieppe Lyon, le directeur PDG de Juntou Pontoise, le directeur de la clinique Juntou Riquin, et différents directeurs généraux de différentes entreprises audiovisuelles, robotiques, transports, énergique, etc., etc. Il y a en plus, avec eux, une des principales actionnaires, une jeune femme grande, mince, blonde, habillée de noir, c'est Hélène de Champ-Perdry.
Boris va entrer dans la grande salle où se trouve la réunion.
tous présents autour d'une grande table ovale noire. Lorsqu'ils arrivent, ils se lèvent tous. Maurice va à sa place et leur dit « Bonjour, asseyez-vous. » Tous s'assoivent. Maurice leur dit « Je vous ai fait venir pour cette assemblée extraordinaire pour une chose très importante. Est-ce que tout le monde est là ?» Le secrétaire, qui a une table plus loin, lui dit « Oui, monsieur. » C'est lui qui va taper sur l'ordinateur tout ce qui va se dire. L'ordinateur qui tape ce qui se dit rien que par le son des voix. Et il reconnaît les voix des personnes. Maurice leur dit « Bon, après avoir bien réfléchi, j'ai décidé de vous donner ma démission et l'entreprise Franblanc reprend son autonomie. Elle part avec moi. » Et jeune Toupontou lui dit « C'est impossible, vous ne pouvez pas partir comme ça. Et pourquoi ce départ ?» Maurice lui dit « Parce que la politique que nous prenons ne me convient pas. » Monsieur Dutour lui dit « Eh bien, demandez à ce qu'on en change. Vous voulez qu'on soit plus productif ?» Maurice lui dit « Ce n'est pas ça. Je ne veux plus que l'on fasse tout ça à ces pauvres gens. » Le PDG, jeune Toupontois, lui dit « Mais on ne fait rien de mal. Il faut bien que le progrès avance. Si certaines personnes ne peuvent aller de l'avant, eh bien tant pis qu'elles restent en arrière. Nous n'y pouvons rien. On pourrait les laisser en arrière sans leur faire de mal. De toute façon, je donne ma démission. » La dame en noir lui dit « Vous ne pouvez pas, c'est impossible. » Maurice lui demande « Mais pourquoi cela ?»« Parce que vous avez un devoir envers nous et une mission à faire. » Maurice lui dit « Quel devoir ? Quelle mission ? Si mon devoir c'est d'être bon chef d'entreprise, je crois en être un. Mais si mon devoir c'est d'être autre chose, j'aimerais bien savoir qu'on me le dise ce que c'est. J'ai l'impression qu'on me cache quelque chose. Et pourquoi suis-je toujours entouré, espionné ?» Elle lui dit « Vous êtes un homme important. » Il lui dit « Eh bien cet homme si important arrête tout. Il reprend sa liberté. » Elle lui dit « Vous ne pouvez pas. Pensez à votre fils. » Maurice lui dit « Mon fils se moque pas mal du groupe. Et pourquoi tenez-vous tant à ce que mon fils entre dans le groupe ?» Elle lui dit « C'est pour qu'il vous remplace. Et qui vous remplacerait ? C'est pour préparer l'avenir. » Maurice lui dit « Moi, je crois qu'il y a autre chose. De toute façon, je donne ma démission. » Le président général du groupe J'aime tout Pontois lui dit « C'est impossible, vous ne pouvez pas nous quitter. » La dame en noir « À moins que votre fils vous remplace. Là, nous faisons aucune objection. C'est votre fils qui nous intéresse, pas vous. » Il lui dit « Vous savez très bien qu'il ne voudra jamais. Et puis, il n'est pas mûr pour ça. » Elle lui dit « Nous le formerons. Nous avons l'habitude, vous savez. » Il lui dit « Je donne ma démission et mon fils ne prendra pas ma place. » Elle lui dit « Vous restez PDG jusqu'à qu'il puisse prendre votre place. » Maurice lui dit « Je refuse. » Elle lui dit « C'est impossible. » Il lui dit « Je refuse. Il me suffit de démissionner. » Elle lui dit « Si vous démissionnez, vous ne reverrez plus votre femme et votre fils. » « Vous n'avez pas le droit. » « Si, puisqu'ils nous appartiennent. » « C'est ridicule. Ils sont de mon côté. C'est mon fils. » Elle lui dit « Peut-être bien que oui, mais vous ne le reverrez plus. » Maurice lui dit « Pas alors. » « Non. Si nous défendons nos biens. Demandez à votre fils de prendre votre place. S'il accepte, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais vous nous servirez plus. Plus du tout. Il n'y a que cette solution.
Horace lui dit.
J'irai à la police.
Elle lui dit. Quelle police? Vous oubliez que la police est avec nous.
J'irai voir le président.
Il est avec nous aussi. Non. N'est qu'une seule chose à faire. C'est demander à votre fils de prendre votre place.
Horace lui dit. Bien, je vais lui demander. Et s'il refuse,
vous resterez PDG jusqu'à ce qu'il accepte.
Petit Maurice regarde les gens de l'assistance.
Je suis d'accord avec ces femmes. Je vois. Et cette femme qui décide, c'est cette femme qui décide de tout. Et vous alors? Pourquoi cette femme? Qui est-elle?
Le PDG, je ne tout en toi, lui dit.
Tout vient d'elle. Nous sommes que des exécutants.
Qui est-elle?
Elle représente un groupe important.
Horace lui demande.
Quel groupe?
Il lui dit. Qu'importe. Ce n'est pas un groupe industriel, mais disons particulier, qui détient tout le commerce, la police, la justice, les gouvernements, l'armée, le monde des affaires.
Horace lui dit, puisqu'ils sont si puissants, ils n'ont qu'à me remplacer.
Il lui dit,
ils sont justement là pour que vous restiez à votre place. Ils ont besoin de vous, comme ils avaient besoin avant d'autres personnes.
Horace se lève et dit,
oui, je vois. Vous êtes tous des pantins aux ordres de cette personne.
Elle lui dit, tenez à votre fils. Demandez à votre fils s'il veut prendre votre place.
Il ose les épaules et sort de la salle de réunion.
Une fois à son bureau, il téléphone à son fils.
Allô, Gilbert? Oui, c'est moi. Ça va? Si tu veux, j'aimerais te parler. J'aimerais te voir un peu. Oui, bien sûr, viens me voir.
Marie réfléchit et dit,
non, j'aime mieux dans un endroit public. Tiens, à 17h, dans le jardin du Luxembourg, à côté de Guignol. Ça te va?
Oui, ça me va, père.
Bien, alors, à ce soir.
Thank you.
Maurice, à 17h, retrouve Gilbert au jardin du Luxembourg. Maurice lui dit,
tu te souviens, parce que tu étais enfant, tu aimais beaucoup jouer ici.
Gilbert lui dit, oui, j'aimais voir Guignol. J'ai toujours beaucoup aimé les marionnettes. Je souhaitais que vous m'offriez un théâtre avec des marionnettes et les décors, tout quoi. Mais j'en ai jamais eu. Tu m'as jamais fait ce cadeau. Alors il se demande,
comment voulais-tu que je sache que tu voulais un théâtre de marionnettes? Tu ne me l'as jamais demandé.
Là, lui dit, je croyais que tu allais le comprendre tout seul.
Si tu veux, je peux t'en acheter un.
Gilbert lui dit, c'est un peu tard maintenant. Voyez le théâtre qui est délabré.
Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, La troisième époque de Violence et Crépuscule, L'élu. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Musique originale de L'élu, Lionel Morzetti.